Bonjour, mon nom est Sylvain Grisou, je suis urbaniste et fondateur de Dixit.net. On visite aujourd'hui la Cité des Hospitalières à Montréal, en compagnie de Marie Renoux, référente d'occupation transitoire chez Entremise. Après un siècle et demi d'une histoire marquée par une vocation de soins et la présence de religieuses cloîtrées, ces vieux murs de pierre sont en train de s'inventer un avenir par un processus d'occupation transitoire aussi ambitieux que complexe. Mais si c'était plus que des usages qui se testaient ici, et que ce lieu d'exception devenait un nouveau commun urbain? Rendez-vous sur Dixit.net pour retrouver toutes nos publications et vous abonner à ce podcast. Bonne écoute!
Une ville en pleine expansion.
Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités.
Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle?
C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain.
On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. Hein. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones.
And perhaps the defining trend of the 21st century is population growth.
On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité.
Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès.
Des projets d'urbanisme qui sont indispensable du fait d'une circulation toujours plus intense.
Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir.
Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes.
Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution.
On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Marie Renoux, bonjour.
Bonjour.
Alors Marie, peut-être que tu peux déjà te présenter, nous parler un petit peu d'Entremise, avant qu'on parle du lieu particulier dans lequel on est là maintenant.
Oui, bien sûr. Donc c'est ça, Marie Renoux, mon titre officiel, référente d'occupation transitoire chez Entremise. Donc mon titre en fait consiste de manière très terrain à coordonner tout ce qui est activité, occupant, gestion des partenaires, gestion de tous nos projets d'occupation transitoire chez Entremise. Entremise, au sens très large du terme, c'est un OBNL, organisme à but non lucratif, spécialisé donc dans l'occupation transitoire. Occupation transitoire notamment de bâtiments vacants, autant patrimoniaux, commerciaux, industriels, etc., à des fins de conservation patrimoniale, à des fins écologiques aussi, puisque le bâtiment qu'on ne construit pas, c'est celui qui est le plus écologique, et à des fins sociales aussi, pour permettre aux communautés de se réapproprier des bâtiments qui resteraient vacants pendant plusieurs années autrement. Donc moi, particulièrement, je suis référente d'occupation transitoire pour la Cité des Hospitalières, qui est notre plus grand projet pour l'instant chez Entremise.
Alors, en effet, un projet massif, en tout cas, c'est un site qui est extrêmement important, hein, extrêmement bien situé au cœur de Montréal, au pied de Mont-Royal, et qui est chargé d'histoire. De toute manière, son architecture le montre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Bah bien sûr, comme tu l'as si bien nommé, il est chargé symboliquement, il est très grand, il est central vis-à-vis de Montréal aussi. C'est un espace que les gens voient au quotidien mais auquel jusqu'ici ils n'ont pas eu accès, puisque la Cité des Hospitalières, comme on peut le deviner, était possédée et gérée par les religieuses hospitalières de Saint-Joseph, donc des sœurs cloîtrées. Qui sont arrivés à Montréal dès la fondation de Montréal avec Jeanne Mance et Paul Chomedé de Maisonneuve. Elles ont participé à fonder l'Hôtel Dieu, qui est le plus vieil hôpital de Montréal. Ce faisant, elles ont aussi monté le couvent donc des hospitalières, qui a bougé du Vieux-Montréal à son emplacement actuel où on est aujourd'hui, donc au pied du Mont-Royal, en 1861. Donc le bâtiment est quand même à plus d'un siècle. C'est ça, il est symbolique évidemment pour son histoire, pour sa localisation, mais aussi évidemment parce que son patrimoine est très important. On a encore une crypte par exemple en dessous de la chapelle de chapelle Sainte-Famille qui contient les sépultures de la plupart des sœurs qui ont habité ici, mais aussi celle de Jeanne Mance par exemple, donc qui est la cofondatrice de Montréal.
Donc c'est un lieu historique, c'est un espace religieux, hein, et c'est un espace de soins. Un espace de pratique. Alors, qui s'est arrêté À quel moment est-ce que finalement le lieu se libère ?
La dernière sœur rentrée dans la communauté, ça date de 1970. Donc la communauté a commencé à diminuer en nombre depuis cette époque-là. Dans les années 70, on voit aussi l'Hôtel Dieu, donc l'hôpital, récupéré par le gouvernement. Donc ce ne sont plus les sœurs qui gèrent cette fonction-là de soins. Donc elles se retranchent vraiment dans l'ensemble conventuel qui est connecté à l'hôpital par la chapelle. Et donc juste dans l'ensemble conventuel. Et puis finalement, puisque la communauté diminue en nombre et puis que les sœurs sont vieillissantes, elles ont décidé de vendre en 2017 à la ville de Montréal pour que la ville puisse trouver un projet qui puisse faire perdurer finalement la mission des sœurs au-delà de l'aspect religieux, mais dans l'aspect service à la communauté, service aux citoyens, préservation du patrimoine, préservation de l'esprit d'entraide et de soutien. Donc c'est avec cette grande idée-là que la ville de Montréal a récupéré le bâtiment en 2017.
Et c'est là où vous arrivez ?
Exactement, ben, en fait on arrive en 2019,
ouais.
Donc après 2 ans de tâtonnement de terrain, d'études de la ville de Montréal, avec donc la ville de Montréal qui mandate entremise pour faire de l'occupation transitoire dans le bâtiment, et ce pour tester ce qui fonctionne moins bien, en lien avec la mission des sœurs, donc en fait ce que les sœurs leur ont demandé de faire, donc trouver un projet durable dans le temps qui respecte l'esprit, l'histoire du lieu, avec différents porteurs de projets, donc de manière collective et en fonction surtout de 7 lignes directrices qui résument en fait la mission des sœurs après concertation avec les citoyens, études de la ville et concertation avec les sœurs, 7 lignes directrices qui ont émergé. Qui sont, je vais tenter de ne pas en oublier, créativité, hospitalité, guérison, réconciliation, enseignement, leadership des femmes et bien commun. J'espère que j'en oublie pas.
Ça fait déjà un beau programme.
Donc oui. Donc en fait, tout ce qu'on fait à la Cité doit être cadré en fonction de cette ligne directrice-là.
D'accord. Donc 2017-2019, c'est plutôt un temps de calage, mais qui n'aboutit pas sur la définition d'un projet, hein, mais plutôt d'un processus qui doit définir ce que sera l'avenir du lieu. Sur l'îlot, c'est l'ensemble de l'îlot. Il y a encore une activité de soins qui est en parallèle où s'arrête finalement cet espace de projet et où est-ce qu'il commence ?
Juste un petit mot pour les dates en fait.
Ouais.
C'est ça. 2017-2019, c'est la ville qui regarde un petit peu tout ce qu'on peut faire. Entremise rentre en jeu en 2019 et on a commencé à activer les lieux en 2021.
Ouais.
Nous-mêmes pour préparer l'occupation transitoire. Je vais y venir par la suite. Mais pour ce qui est des activités de soins, en fait, non, l'Hôtel Dieu, donc l'hôpital dont le propriétaire est le gouvernement, donc c'est un projet à part, qui se parle évidemment, ils se parlent de la ville de Montréal, le gouvernement, pour avoir un projet d'ensemble cohérent, mais c'est il n'y a plus de soins. Donc ça a été déplacé au CHUM, Centre Hospitalité Universitaire de Montréal, un peu plus au sud de Montréal. Il n'y a plus d'activité de soins, le bâtiment est également vacant, à part quelques activités diverses et variées. Donc il n'y a plus d'activité de soins dans l'aspect hôpital et dans l'ensemble conventuel non plus. L'espace est vide, les seules activités de soins, entre guillemets, qu'on peut rappeler, c'est en fait la vie des sœurs, parce que les sœurs sont encore dans le lieu malgré tout.
D'accord.
Elles ont vendu, mais elles sont encore dans l'aile sud du bâtiment. Et vu que c'est une communauté vieillissante, évidemment, elles ont des besoins particuliers.
Mais donc aussi, elles veillent sur l'avenir du lieu.
Bien sûr.
En restant sur place. Donc on a un ensemble qui globalement mute, est en train de changer d'usage, changer de vie, avec des bâtiments qui sont à la fois imposants, patrimoniaux. Voilà, il y a à la fois une histoire, mais aussi une architecture qui est présente. Vous intervenez sur une partie de ce site, hein, qui est cet ensemble conventuel, avec d'ores et déjà donc une occupation qui n'est pas transitoire, qui est les sœurs qui habitent encore là partiellement. Très bien, ben je sais pas si on commence la visite.
On peut commencer, bien sûr, oui. Hop, on va passer à côté de mon collègue qui fait des travaux pour améliorer justement l'occupation du site. On t'embête une seconde. Donc c'est ça, là on sort de la procure pour arriver à l'embranchement des ailes est-ouest et nord-sud. Donc un peu plus au sud, derrière les portes cachées, on a les sœurs. C'est évidemment un espace auquel on n'a pas accès parce que sinon tout le monde est bien curieux de la vie des sœurs, donc tout le monde irait très régulièrement les voir. Bien qu'on ait souvent, on a encore une réunion avec elle hier pour les tenir un peu au courant et les mettre en contact avec des occupants du site. Au nord, on a la salle de communauté. Donc on peut aller la voir, se diriger doucement. Oui, en effet, j'oublie, c'est quand même cette partie centrale. On a une petite ligne du temps en fait avant la salle de communauté, à l'espace, dans l'espace où les personnes passent le plus régulièrement, qui explique toutes les activités qu'on a menées depuis juin 2021, quand on a commencé à activer le site. Donc tous les événements qui ont lieu. Évidemment, il y a un petit trou avec la Covid, mais autrement, on a eu beaucoup d'activités très diverses et variées là.
Oui, les murs servent aussi à exposer le processus.
Exact.
Des frises chronologiques, mais aussi le rappel des sept principes.
C'est ça, en gros, que ce soit un petit peu interactif, tout ça. Donc voilà. Donc là, on passe par notre petit espace cuisine commune, l'ancien bureau de la mère supérieure qui a été, qui va être transformé en bureau pour des organismes en théâtre, en fait, qui vont d'ailleurs utiliser la salle de communauté qui est donc une des plus grandes salles, en fait la deuxième plus grande salle de la cité après la chapelle. Donc, comme on peut l'entendre, c'est une salle où on se parle. Il y a vraiment une ambiance particulière dans ce lieu-là. Puis historiquement, c'était un peu le salon des sœurs. C'était là qu'elles venaient jaser, coudre, se reposer. Puis c'est vraiment notre salle un peu polyvalente, en fait, qu'on peut utiliser à des fins diverses.
Alors, on est sur des lieux qui n'ont plus d'activité de soins depuis longtemps, mm-hmm. mais qui sont quand même parfaitement entretenus, même
oui.
s'ils sont dans leur jus quelque part.
Oui,
on est sur des espaces sur lesquels on sent bien qu'on a eu un entretien, un respect du bâtiment. Et puis, des espaces, aussi des espaces verts qui viennent s'insérer entre les ailes du bâtiment qui donne, je pense, des vraies qualités, notamment en été, quoi.
Ben, tout à fait. En fait, le jardin est énorme. Puis, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est ancré dans un espace de la ville de Montréal qui est très propre à la spéculation immobilière, qui est très achalandé. Il y a beaucoup de circulation. C'est vraiment la ville centrale, comme on peut l'imaginer quand on parle d'urbanisme. Mais le jardin est vraiment cet espace protégé. Il y a des vergers, on a des marmottes, des lièvres, etc. dans les jardins. C'est un espace qui est très calme et dont on veut vraiment conserver la quiétude. Donc c'est ce sur quoi on travaille également dans les jardins, mais aussi dans le bâtiment. Conserver cet état de quiétude aussi.
Oui, tout à fait.
Qui est propre à l'aspect conventuel et à l'introspection que les sœurs menaient dans ce lieu-là. Donc on sort de la salle de communauté, on se dirige vers l'aile centrale est-ouest. Qui est en fait on est vraiment dans l'espace qui a le moins bougé en termes de murs, d'aménagement, etc. depuis les débuts. On passe devant des petites cabines téléphoniques qui retracent un petit peu comment on vivait le lieu. Il y a aussi des éléments qui datent donc du couvent et de l'hôtel Dieu quand il était dans le vieux Montréal. Donc par exemple, on a une petite fontaine à eau là qui date de 1600 en fait. Donc c'est partiel, l'espace est sobre, mais il y a quelques éléments comme ça qui retracent l'histoire du lieu.
Peut-être tu voudras sans doute y venir plus tard, mais vous êtes arrivé il y a quelques temps. Le processus d'occupation n'est pas encore mature, c'est-à-dire tout le monde n'est pas encore arrivé. On est dans un lieu qui n'est pas encore complètement plein.
Tout à fait. En fait, le rez-de-chaussée et l'aile nord, on commence à les occuper. Donc, on avait croisé quelques occupants dans les espaces. Donc, on a par exemple beaucoup d'organismes en théâtre et d'organismes en théâtre impliqués notamment, pas juste du théâtre pour du théâtre, mais du théâtre participatif qui traite d'enjeux de société comme le harcèlement de rue, etc., etc., et qui implique les spectateurs. Par exemple, Tisri Dounia fait ce genre de représentation. On a des organismes en théâtre au rez-de-chaussée, on a beaucoup d'organismes créatifs dans l'aile nord. Malheureusement, on ne peut pas encore utiliser le deuxième, troisième, quatrième de l'aile centrale. En raison d'enjeux de sécurité incendie. Donc en fait, on est encore dans le défrichement de en fonction des issues d'évacuation, de comment les murs sont faits, etc. Qu'est-ce qu'on peut exactement faire ? On n'a pas encore une réponse définitive, mais en attendant, on peut pas occuper ces espaces-là. Éventuellement, on va pouvoir et on poursuivra l'occupation transitoire pour remplir le bâtiment. Mais pour l'instant, en effet, c'est plus partiel.
Parce qu'aujourd'hui, donc sur le rez-de-chaussée, globalement, vous organisez les synergies entre les acteurs.
Ouais.
Vous les accueillez, il y a une gestion évidemment collective à monter. Mais au vu de l'état du bâtiment, il n'y a pas eu besoin d'aménagement, d'investissement significatif pour qu'il soit réoccupé. Là, sur les étages, éventuellement, notamment pour la sécurité incendie, ça pourrait être nécessaire ?
Oui, évidemment. Mais ça sera la ville de Montréal, le propriétaire qui prend en charge évidemment le désamiantage, la réfection des murs et des plafonds pour la sécurité incendie, etc., etc. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre, malheureusement, dans l'occupation transitoire. Mais nous, l'occupation transitoire, ça permet de commencer à occuper un bâtiment, même s'il n'y a pas exactement le bon nombre de toilettes en fonction du bon nombre de personnes. Parce que souvent, surtout au Québec, on a vraiment le Code national du bâtiment qui régit tout ce qu'on peut faire, puis qui est très strict. Et en fait, souvent, c'est pas juste des enjeux de sécurité quand on peut pas occuper un bâtiment et pourquoi les bâtiments restent vacants. C'est souvent des enjeux de confort. Donc c'est pour ça que je nomme l'exemple des toilettes, parce que c'est souvent pour des raisons aussi un peu superficielles que ça que on ne peut pas occuper un bâtiment rapidement. Donc nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment la sécurité et le reste, on trouve des moyens de s'adapter avec les occupants de manière collective.
D'accord.
Pour
Identifier les fondamentaux sur les questions de sécurité,
exact.
Je pense d'énergie aussi. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose d'avoir un bâtiment non chauffé l'hiver
Bien
à Montréal.
Sûr. Bien sûr. Non, en fait, les bâtiments sont forcément chauffés à Montréal. Vu la température extérieure, on n'a pas le choix.
Sur cette question de sécurité incendie ou autre, enfin, justement sur ces éléments de blocage fondamentaux, quand on dissocie les éléments de confort et les éléments fondamentaux sur lesquels on peut pas transiger. Ici, qu'est-ce qui peut poser problème? Et puis ailleurs aussi, c'est quoi les freins en fait à l'occupation transitoire? Les freins concrets en retour du réel.
Ouais, ben des freins réglementaires. Évidemment, par rapport à en Europe, par exemple, le squat ou l'occupation de bâtiments n'est pas. Ben, je veux dire, on peut pas faire tout ce qu'on veut, évidemment, mais comme au Québec, il y a aucune loi qui régit le fait que des bâtiments restent vacants alors que des personnes sont dans la rue. Ou c'est pas possible d'occuper un bâtiment vacant quand il y a un propriétaire privé ou public, même quand c'est des situations d'urgence. Là, c'est vraiment le code national du bâtiment prime beaucoup sur tout. Donc évidemment, on a des réglementations qui nous freinent. Bon, code national du bâtiment pour ce bâtiment-là. On a aussi des règlements d'urbanisme. Donc notre zonage actuellement ici, c'est du grand centre institutionnel, grand ensemble institutionnel. Donc, on pourrait faire un hôpital, on pourrait faire un CHSLD, donc pour accueillir des personnes âgées, etc. Mais par contre, on peut pas faire d'hébergement transitoire. C'est un peu paradoxal. Puis surtout que, c'est donc l'ensemble conventuel. On va aller le voir aux étages, mais c'est beaucoup de chambres. C'était fait pour y vivre et y être hébergé. Les sœurs vivent encore là, mais on va pouvoir monter par ici, en fait. Elles bénéficient d'une clause grand-père qui fait en sorte qu'elles peuvent encore utiliser le bâtiment pour y être hébergées, mais nous on ne peut plus le faire.
D'accord.
Puis le problème c'est que on ne souhaite pas forcément changer ce zonage-là sans l'avoir testé en avance. Donc c'est vraiment ça. On est vraiment très en coordination avec les pouvoirs publics, avec la Régie du bâtiment du Québec, avec les ministères du patrimoine, etc., de la culture notamment pour faire changer les choses, pour faire comprendre que quand on essaie de faire évoluer la réglementation, c'est pas forcément de manière permanente. Il faut qu'on ait cette latitude-là pour le tester, puis ensuite faire changer les choses. Parce que sinon, en fait, actuellement, pour certains enjeux, il faudrait qu'on passe tout le temps devant le comité exécutif de la ville de Montréal, ce qui est pas forcément envisageable en tout temps. Donc, ouais.
Des questions de sécurité bâtimentaire, on l'entend bien. Des questions réglementaires, mais pas que sur la forme bâtie ou les aménagements, mais aussi sur les types d'occupation. Et puis aussi une forme de contradiction. Donc, faudrait habiter le lieu pour voir s'il est bon d'habiter. Et donc, ce serait l'occasion de changer le droit, mais le droit est fixe et donc on peut pas tester. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
Exact. Puis là, en fait, ça m'amenait à aussi un autre élément. Là, on est devant la Grande Chapelle, l'ouverture de la Grande Chapelle. Juste aller jeter un œil s'il n'y a pas... parce qu'on a une représentation de théâtre en ce moment. En fait, je ne veux pas les déranger, je peux aller voir.
Ouais.
Mais ce qui nous amène aussi à d'autres contraintes qui sont patrimoniales aussi. Parce que cette Grande Chapelle-là, elle est... sans doute, elle est historique. Bonjour. Est-ce qu'on dérange? Il semblerait qu'il n'y ait personne, donc allons-y.
C'est magnifique.
Bien sûr.
Et dans un état exemplaire.
Bien sûr, c'est ça. En fait, je pense que les congrégations religieuses au Québec sont connues pour bien entretenir leur patrimoine. Les sœurs hospitalières de Saint-Joseph en sont un bon exemple. Mais c'est ça, cette chapelle-là, elle a été désacralisée. Donc elle peut plus être utilisée à des fins religieuses en tant que telle. Donc c'est ça, on est en train de tester qu'est-ce qu'on peut y faire en conservant ce patrimoine-là, puis en conservant sa forme, évidemment, puisque c'est comme une forme... Donc là, on a commencé à tester des représentations théâtrales, des concerts de musique. On voudrait aussi pouvoir l'utiliser pour des assemblées publiques, mais par exemple, là, c'est très inhérent à la forme de la chapelle, c'est que l'acoustique est faite pour des messes. Donc, ouais. Le son circule beaucoup, il y a beaucoup d'écho. Donc, pour avoir des conversations longues, des débats, etc., c'est plus difficile. On s'entend moins. Donc, évidemment, c'est des contraintes qu'on prend en compte dans l'occupation transitoire. Mais c'est aussi notre rôle, en fait, en habitant le lieu, de trouver des solutions alternatives, peu coûteuses et plus adaptées sur mesure par rapport à l'espace pour adapter des usages en fonction des espaces. Plutôt que modifier, en étant dans un petit bureau d'architecte, de personnes qui ne sont pas allées sur le terrain voir l'espace, qui ont juste des analyses, en étant sur les lieux, en testant des concerts, en testant au fur et à mesure qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins, ben là, on peut trouver des solutions alternatives moins coûteuses donc, pour l'espace.
Oui, il y a une logique aussi un peu de rusticité des solutions qu'on
ben,
trouve.
Exactement. Ben, en fait, rusticité en attendant. Puis ensuite, on les met en place des solutions plus durables, mais en fait, ça coûte beaucoup moins cher à la fin.
Et là, par exemple, comment est-ce que vous agencez le projet global, enfin la démarche globale plutôt que le projet, démarche globale qui vise à tester des usages, votre présence comme animateur du lieu, et puis là, ceux qui testent finalement, c'est pas tant Entremise que les acteurs que vous mobilisez, qui sont accueillis ici et qui vont tester un peu les limites du système. Donc là, pour du théâtre, on voit qu'on a des installations, qu'il y a des choses qui se testent. Ouais. Comment est-ce que tout ça, finalement, comment est-ce qu'on fait les allers-retours? Vous avez un suivi de tout ce qui est fait? Comment se refait le dialogue à la fois avec avec les sœurs, qui ont un intérêt manifestement encore dans l'affaire, mais avec le propriétaire aussi, qui est la ville
Bien
de
sûr.
Montréal? C'est quoi le processus qui permet finalement, au fur et à mesure, de tester différents usages et de se dire, bah, oui, ça c'est bien, à condition que, mais ça non. Vous êtes... On a une temporalité, on a des temps de dialogue. Comment tout ça est organisé?
C'est toute notre réalité, en fait. Nous, on a juste le rôle d'intermédiaire parce que, en effet, on ne fait pas les choses. On propose à des occupants de les faire. Et on est en constant dialogue, en effet, avec les occupants. Donc, c'est souvent des rencontres quotidiennes. Le bureau de permanence, en fait, d'être sur place, c'est ça qui permet d'avoir des interactions quotidiennes et régulières et pas juste envoyer un courriel quand il y a vraiment une urgence, mais pas...
Oui, c'est intéressant pour
c'est ça, c'est
le contact, retour d'expérience, c'est faut vivre l'expérience, quoi.
Exactement. Ouais. Donc c'est vraiment ce contact humain au quotidien qui fait en sorte que nous, on a les informations, on les documente et on a des suivis réguliers avec différents services. Donc il y a plusieurs services de la ville qui sont impliqués dans ce projet. Service de la culture, service de la gestion et planification immobilière, etc., etc. Donc services qui ont différentes spécialités. Donc pour les cultures, par exemple, on leur parle des enjeux acoustiques, on leur parle des enjeux symboliques de l'utilisation de l'hôtel dans la chapelle.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on a noté comme enjeu avec les occupants? Et puis évidemment, service de la gestion et planification immobilière, on leur parle du chauffage, on leur parle de ce genre de choses. Donc on a des suivis, simplement des rencontres régulières à chaque semaine pour ce genre de choses, on transfère l'information.
Et ce débat donc un peu permanent, il y a dès le début dans la mission d'Entremise un début et une fin, un horizon au bout duquel il faut prendre des décisions, ou est-ce que globalement... tout le monde s'est lancé à l'aventure et puis on verra bien.
Non, ben là, bien sûr, l'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait plus besoin d'Entremise à la fin.
Ouais.
Nous, on est là vraiment aussi de manière transitoire. Donc, en fait, le but, c'est d'autonomiser le site, son propriétaire, les occupants, de faciliter en fait la création d'outils entre toutes ces personnes-là, autant de gouvernance que de gestion immobilière, etc., de modèles financiers, tout ça. Nous, on propose tout ça, puis à la fin, on s'en va. Donc, par exemple, pour ce projet-là, nous, notre contrat se termine en 2023. On verra ce qui se passe par la suite, comment on est renouvelé ou pas, etc. Mais l'idée, c'est ça. C'est vraiment d'autonomiser le site avec ses suivis quotidiens pour que tout le monde ait les clés en main. En fait, tout le monde ait les informations nécessaires, autant pour la gestion du bâtiment que pour la viabilité du lieu, pour prendre des décisions éclairées par la suite. Donc, on fait aussi... Là, on n'a pas encore assez d'occupants, mais on est en train de monter des comités de gouvernance pour les occupants, pour qu'ils prennent conscience, en fait, de... pas juste un club social, etc., pour que ce soit le fun d'habiter le lieu, mais aussi de l'impact financier que peuvent avoir certaines actions qu'ils posent ou que la ville pose sur le projet. Donc, on veut vraiment impliquer tout le monde là-dedans. Donc, c'est comme ça qu'on perçoit les choses. Ici, on est au deuxième étage, donc c'est l'espace qu'on ne peut pas occuper actuellement. Ça ressemble beaucoup à un hôpital, mais en fait, c'est l'ancien étage d'infirmerie, mais pour les sœurs, parce que les sœurs on va dire communauté vieillissante avec des besoins particuliers. Donc c'est l'espace qu'on peut pas occuper actuellement. On y occupe juste un petit espace qui s'appelle le solarium, qui donne sur les jardins, qui est particulièrement bien éclairé en salle de conférence. Donc c'est la petite utilisation qu'on en fait actuellement.
Donc là, on est bien sur des questions, donc incendie, c'est-à-dire au sens évacuation, etc. Hein, c'est les contraintes qui font qu'on ne peut pas occuper.
Exact, tout à fait. Mais on y travaille toujours parce que nous, notre but, c'est justement pas qu'il y ait juste une décision de rendu pour la sécurité incendie, puis c'est tout. Nous, on essaie de trouver des alternatives. Donc par exemple, on nous dit, il n'y a que 2 évacuations. C'est pas possible en fonction du nombre total. Par exemple, si on met 500 personnes sur 2 étages, ouais, ça ne se peut pas avec les issues d'évacuation. Mais nous, ce qu'on propose, c'est en fonction de ce qu'on a analysé des besoins de chacun, de limiter, par exemple, la capacité. Plutôt qu'il y ait 500 personnes, ouais, peut-être qu'il y en aura 50, plutôt. Puis du coup, là, le problème de l'issue d'évacuation, il n'y en aura plus. Mais en fait, ça, c'est pas le genre de mode de pensée qui est fait par un architecte ou par un service incendie au fur et à mesure de l'occupation.
Donc là, ça veut dire quoi? Que vous vous mettez entre les occupants potentiels, la ville, les services incendie qui disent oui ou non, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça. Hein, exact.
De façon à la fois rentrer dans les solutions techniques, mais aussi par les programmes. C'est-à-dire vous avez acquis aussi cette compétence-là, qui est quand même hyper technique, réglementaire, pour dialoguer avec chacun.
Bien sûr, en fait, c'est pour ça qu'on a des architectes et des urbanistes à l'intérieur d'Entremise. C'est pour ça qu'on a cette expertise, parce que sinon, on s'en sortirait pas. Évidemment, il nous faut des personnes qui sont expertes du code national du bâtiment, qui sont expertes en sécurité pour pouvoir avoir ce genre de conversation. Parce qu'on veut pas mettre en danger des personnes, évidemment, pour rien, là. C'est pas le but. Donc, évidemment, il faut qu'on ait un regard éclairé quand on a ce genre de conversation.
Non, mais il y a toujours cette logique, qui est souvent moins coûteuse, mais plus complexe. Finalement, d'arriver à trouver le bon compromis entre l'usage d'un côté, les interventions qui peuvent être sur le bâtiment, hein, qui peuvent avoir lieu, mais venir les minimiser et trouver le bon compromis entre la règle, les usages et les adaptations, plutôt que de faire donc des travaux lourds pour avoir une troisième circulation verticale pour évacuer, on se pose les questions plutôt du programme, du type d'occupation, etc.
Et puis ça peut paraître plus coûteux à la base en termes de ressources humaines, d'aller-retour, etc. Mais au final, c'est moins coûteux sur le long terme puisqu'on a un bâtiment qui est occupé, on peut aussi charger des loyers parce qu'évidemment, il faut qu'on réfléchisse à la viabilité financière du projet. Et puis évidemment, en termes écologiques, économiques et sociaux, qui ne reste pas vacant pendant 10 ans et qui est chauffé, parce que c'est ça, au Québec, on doit chauffer à 10 degrés tout l'hiver, obligatoirement.
Minimum, ouais.
C'est ça. Pour rien. Alors qu'il y a des personnes on est dans une ville où il y a de la spéculation immobilière, où c'est très dur de se trouver des espaces. Donc évidemment, il y a ce genre de coûts. On peut continuer par ici? On va continuer vers l'espace du noviciat, qui est en fait donc dans l'aile nord. Donc l'aile nord qui, donc je rappelle, peut être occupée. Et qui est occupée donc par un espace de coworking. Donc le noviciat, c'était pour les novices. Donc les sœurs qui rentraient dans la communauté, qui passaient 2 ans en fait en réflexion par rapport à ce processus-là avant de devenir postulante et avant de devenir sœur. Donc il y avait tout un processus. Donc on a des anciennes chambres, on a des anciens espaces pour les novices particulièrement, mais on a aussi une salle de conférence dans ce fameux noviciat.
Cette histoire-là que tu nous contes, un peu pièce par pièce, bâtiment par bâtiment, mm-hmm, dans votre processus, qui tient le fil de tout ça, qui raconte le lieu, manifestement, il y a une vraie attention à l'histoire et au patrimoine dans votre démarche de projet, est-ce que ça va donner lieu aussi à des objets, des formes de formalisation? Il y a quelqu'un qui tient le carnet, finalement, de cette histoire?
On est plusieurs en fait. Évidemment, nous, Entremise, quand on occupe un lieu, quand on le prépare, l'occupation, etc., c'est sûr qu'on documente. C'est hyper important pour nous de comprendre le lieu pour avoir des interventions qui fassent du sens par rapport à l'histoire et par rapport au niveau technique, évidemment aussi. Mais on est beaucoup en contact avec le musée des hospitalières, qui est en fait un des occupants du site, donc avec qui on se coordonne constamment pour savoir est-ce que si on met un atelier de yoga dans l'ancienne boulangerie, ça fait du sens? Peut-être pas, on pourrait peut-être trouver un truc alternatif.
Oui.
Musée d'hospitalière, la service de la culture, on a des études patrimoniales sur lesquelles on revient constamment pour ça. Donc on peut
oui, donc c'est aussi l'occasion de l'occupation et aussi l'occupation de formaliser quelque part cette histoire.
Allô ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Bon, aujourd'hui, décidément, il n'y a pas grand monde.
Alors, c'est l'espace de coworking. On ne peut pas dire qu'il y ait une dynamique créative absolument pléthorique, hein, puisqu'il n'y a encore personne.
C'est ça. Aujourd'hui, c'est vraiment limité, mais on est en train aussi de trouver plus d'occupants pour l'espace. Mais
il y a vraiment cette...
Hier, il y avait 50 personnes, par exemple.
Cette question de monter en charge progressive, d'accueillir au fur et à mesure, c'est lié à des contraintes de gestion, etc. Ou ça fait partie de la stratégie d'occupation, le fait d'y aller
Alors, c'est
progressivement
vrai, ouais. C'est vrai que on a eu deux phases, en fait. À partir du moment où on a activé le site, on a eu la phase hôtel à projet, occupation ponctuelle, et une phase occupation plus longue durée. Hôtel à projet, en fait, c'était vraiment les contraintes techniques de sécurité du bâtiment. Fait justement, on a travaillé avec le service d'incendie, on a travaillé avec les pompiers, etc., pour démontrer qu'en fait, non, il n'y a pas vraiment d'enjeu, en fait, au niveau de l'évacuation, etc. Fait que finalement, maintenant, on peut occuper. Donc, c'est pour ça que c'était des occupations très ponctuelles, donc.
Donc ça, c'était une première étape sur une partie du lieu seulement. Comment ça s'est
matérialement ? Oui, évidemment. En fait, c'est ça. C'était dans les plus grands espaces du lieu, donc la salle de communauté, la chapelle, notamment une autre petite salle de rencontre en bas, puis des espaces extérieurs.
D'accord.
Où les gens pouvaient louer donc de 2 heures à 1 mois l'espace, mais c'était tout parce que on était aussi en tâtonnement au-delà de la sécurité incendie.
Peu d'espace, court terme, tâtonnement, pardon, je t'ai coupé.
Exact. Ouais, non, c'est ça, tâtonnement par rapport à. À qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les lieux, quelles étaient les difficultés techniques. On s'est rendu compte dans la salle de communauté, c'était le même circuit électrique sur toute la salle, fait qu'évidemment, quand on branchait une bouilloire puis une machine à café en même temps, tout sautait. Fait que c'était ce genre de petites contraintes de rien du tout, mais qui peuvent complètement influencer l'usage du lieu. Donc, on a commencé à tâtonner un petit peu le bâtiment, commencé à se l'approprier. Puis ensuite, on est passé à cette phase de pilote, donc plus longue durée pour le bâtiment. Là, on a fait des appels à candidature. On a encore un traitement parce que ça prend un petit peu de temps de placer tous ces gens-là selon leurs besoins, selon les capacités du lieu, de manière cohérente. Donc c'est pour ça que doucement on commence à avoir du monde, mais en effet le bâtiment n'est pas encore plein.
Donc vous-même, il y a des phases de test dans la phase de test.
Exact. Oui.
Et en plus une progressivité et là une occupation qui est en train de s'organiser de toute façon que sur une partie du bâtiment, donc que sur le rez-de-chaussée.
Rez-de-chaussée et aile nord.
D'accord. Et le donc je voyais dans la salle, vous aussi une réflexion, vous agencez les occupants, c'est-à-dire au-delà de mètres carrés, de positionner, de remplir. Il y a la question de qui est avec qui, manifestement qui est où aussi, parce qu'il y a des lieux où il y a peut-être une perte de sens, notamment liée au caractère patrimonial. Tout ça, c'est une réflexion qui se fait comment, en fait, vous organisez ça comment? Il y a 4 thématiques, 4 regroupements finalement d'occupants potentiels.
Tout à fait. Ben en fait, à partir des lignes directrices et à partir du type d'activité autorisée, mais qu'on souhaitait aussi pour l'espace, on a identifié en effet 4 thématiques d'occupation. On a la thématique créée, donc pour tout ce qui est organisme créatif, créatif au sens très artistique, culturel du terme, mais aussi recherche, quel que soit le sens que la recherche peut prendre. Donc on a la thématique créée, on a la thématique s'impliquer dans laquelle l'espace de coworking rentre. Donc en fait s'impliquer, c'est des organismes qui cherchent à apporter du changement dans nos sociétés, donc transition socio-écologique, mobilité, agriculture urbaine, etc., etc. On a les organismes partagés. Par exemple, on a une bibliothèque d'outils qui s'est installée dans le bâtiment juste en face, donc pour que les citoyens du quartier puissent venir louer une sironde quand ils en ont besoin, qui correspond aussi à la dynamique d'éduquer aussi des gens sur différents thèmes. Et la dynamique, j'ai nommé créer, partager, s'impliquer et atterrir, qui est plus la dynamique de soins.
D'accord.
En fait. Donc, autant du yoga, méditation, etc., autant on a un organisme de soins palliatifs, mais avec des soins alternatifs au niveau spirituel, etc. Plein de dynamiques différentes, en fait, qu'on essaie d'impliquer sur le site.
Alors, des thématiques, une cohérence, donc à vous d'agencer tout ça au mieux, puis de voir ce qui marche, ce qui marche pas, à quelles conditions. Mais c'est quoi les conditions pour rentrer, en fait? Qui est bienvenu ici? Comment est-ce que tout ça s'organise, y compris en termes de flux financiers? Parce que là, dans les types d'occupants, on a parlé d'entreprises, on a parlé d'organismes communautaires qui sont l'équivalent de nos associations en France. On a sans doute parlé aussi de structures qui sont en cours de création, enfin qui n'existent Pas encore, voilà. C'est comment est-ce que quelque part je suis légitime à dire bah je voudrais être ici en fonction de mon activité, en fonction de mon positionnement.
C'est ça, comme je disais, on a un appel à candidature. On avait fait un appel à candidature spécifique pour la dynamique, la thématique créée. On a fait un appel à candidature un peu plus large par rapport à toutes les thématiques. On le mentionne évidemment qu'il y a des lignes directrices à respecter, etc. Mmh. Et puis ensuite, on a un comité de sélection. Donc, on a un comité de sélection qui était composé de tous les services impliqués de la ville, donc dans le projet, service de la culture, encore une fois, etc. L'arrondissement et Entremise. Donc en fait, on s'assoit, on regarde les candidatures ensemble, puis on regarde en fonction de est-ce que ça rentre dans les lignes directrices, par exemple, est-ce que si c'est un organisme de soutien au bien-être de la communauté inuite de Montréal, ben ça rentre dans la dynamique la thématique réconciliation, la ligne directrice pardon, réconciliation et soins. Santé et bien-être. Donc c'est ce genre de choses qu'on regarde, ça rentre dedans, parfait. Est-ce que c'est cohérent par rapport au site, pourquoi ici et pas ailleurs, c'est ce qu'on regarde. Et évidemment en fonction des besoins techniques, donc combien de pieds carrés ils ont, parce qu'on parle beaucoup en pieds carrés à Montréal, pieds carrés ils ont besoin, est-ce qu'ils ont des besoins techniques particuliers qui répondent pas aux besoins de, aux capacités de sécurité incendie d'ici, etc. Ce genre de choses. Et finalement, on regarde aussi beaucoup l'intérêt, on a des questions par rapport à ça, des organismes à s'impliquer dans le lieu. Donc c'est pas juste on vient ici, on fait notre 9 à 5 puis on repart à la maison. L'idée c'est que tout le monde participe un peu au projet général de la cité hospitalière afin de créer une communauté cohérente et soudée. Donc en fait, on demande à ce que les gens répondent à une entente de réciprocité, c'est comme ça qu'on l'appelle, donc qu'ils puissent rendre à la hauteur de leurs moyens au projet, donc des herboristes qui font un herbier du jardin peut-être, ce genre de choses, des spécialistes en agriculture urbaine qui peuvent s'occuper des plantes de la cité et les mettre en valeur et faire des ateliers par rapport à ça, etc. Mais aussi donc la volonté de s'impliquer collectivement, donc participer à la gouvernance, puis créer des partenariats avec les autres occupants, créer des projets un peu plus généraux.
Donc on a évidemment les enjeux techniques, est-ce que ça rentre, est-ce que les besoins répondent, est-ce que les lieux répondent aux besoins, mais de façon beaucoup plus importante de ce que je comprends, c'est aussi cette cohérence en termes, ces sept principes ou d'activité par rapport au lieu, à l'histoire du lieu, en soi, et puis quelque part cette participation collective, avec donc un peu trois têtes sur ce comité de sélection, à la fois vous, gestionnaire, le propriétaire, la mairie en tant que propriétaire, et puis l'arrondissement, donc plutôt le politique local, enfin en tout cas le territoire qui serait présent à ce tour de table. C'est un peu le oui, principe de ce fonctionnement.
C'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Puis en fait, l'idée, c'est que le comité de sélection puisse être étendu. Donc éventuellement, on pourra avoir des occupants, en fait, au final, dans le comité de sélection.
Ce qui pourrait être une participation à l'effort collectif.
Évidemment. Aussi. Puis on pourrait aussi avoir les religieuses. Les religieuses sont vieillissantes, fait qu'elles ne participent pas actuellement parce que c'est un peu trop leur demander. Mais peut-être qu'éventuellement, quand le projet sera un peu plus en place et qu'il y aura moins de comités de sélection, elles pourraient participer plus régulièrement aussi.
Alors, et derrière, quelle est la réalité économique pour les occupants? Comment ça se passe? Parce que là, on est donc sur un lieu qui est propriété de la ville de Montréal. On l'a dit tout à l'heure, s'il doit y avoir des gros investissements, c'est à la charge du propriétaire. Il faudra que ce soit évidemment justifié, etc. Mais quoi qu'il en soit, on a des coûts de gestion, on a des énergies. Comment ça se passe, en fait?
Actuellement, on est en train de mettre en place, mais c'est pas encore validé. Ça fait encore partie des contraintes réglementaires, etc. Une tarification solidaire. Donc en fait, tout le monde est tarifé pour être sur le lieu, parce qu'évidemment, comme on mentionne, il y a des contraintes de chauffage, d'entretien du patrimoine, etc. La ville évidemment prend à charge tout ce qui est mise aux normes du bâtiment. C'est pas les occupants qui doivent porter ce fardeau-là sur les épaules, mais nous, ce qu'on est en train d'évaluer, c'est que une fois que le bâtiment est mis aux normes, que tout est correct au niveau des normes, combien ça nous coûte, puis comment les occupants peuvent participer à ça. Donc c'est pour ça qu'on met une tarification solidaire en place, qui se base sur les revenus annuels des organismes et des occupants s'ils sont travailleurs autonomes. Sur le statut juridique de l'organisme, donc c'est une entreprise privée, un travailleur autonome versus un OBNL, etc. Et sur le type de service rendu. Donc si c'est de la vente commercialisation versus du soutien, soins à la communauté, etc. Donc on se base sur ces trois critères, puis c'est là qu'on met en place une tarification pour les occupants. Donc ils payent un loyer en fonction du pied carré qu'ils occupent. basée sur cette tarification solidaire-là.
Donc, je peux avoir ici deux personnes qui sont face à face sur des bureaux et qui vont payer finalement un prix très différent parce que c'est un autre type d'organisation, une autre réalité économique pour eux, mais aussi parce qu'ils ont un impact social, un impact écologique ou autre qui est différent.
Ben on a encore, par exemple, pour l'espace, parce que l'espace de coworking, oui, vu que c'est avec des postes un peu mobiles, flottants, etc., c'est encore un peu particulier. Mais pour les autres, en effet, on peut avoir une salle où le prix au pied carré peut être complètement différent de la salle en face.
Alors, dans ce qui est répercuté, sur ce qui sera répercuté sur l'occupant, il y a quoi comme coût? Et notamment, est-ce qu'il y a les coûts de gestion qui sont nécessairement importants pour un lieu comme ça? C'est des gens qui sont là toute la journée pour gérer tout ça et c'est évidemment vital. Est-ce que ça fait partie aussi, c'est intégré à l'avenir au coût de gestion ou est-ce que
sûr.
Ça s'arrête?
Mais en fait, les coûts de gestion vont avoir, en fait, tout est inclus dedans. Mais évidemment, c'est sûr que les coûts de gestion, on veut les minimiser au maximum. ça sonne un peu contradictoire, mais en effet, le but c'est que avec un modèle de gouvernance fonctionnelle, on puisse. Je vais éteindre la lumière en partant. Parce qu'on se veut écologique, fait que allons jusqu'au bout avec cette démarche-là. Hop, tac. Je ne sais pas comment fermer les derniers. Le but, c'est qu'avec un modèle de gouvernance fonctionnelle, c'est que les occupants puissent gérer eux-mêmes le bâtiment au final. Donc, il n'y ait pas de ressources humaines, parce que c'est souvent ça qui coûte cher. Des ressources humaines qui soient, donc comme moi, mon poste de référente d'occupation transitoire, qui soient dédiées à ce projet-là.
Oui, donc la rationalisation, elle passe aussi par là, c'est trouver des modes de gestion dans lesquels on va aussi transférer aux occupants une partie des charges de gestion.
Tout à fait.
Parce que ça fait partie aussi de la capacité du collectif à baisser les coûts.
Tout à fait. Après, c'est ça, on est encore au début du processus de mise en place de ces modèles-là. Fait que c'est sûr que c'est encore des parcours de réflexion. Ah, un petit problème de... Lumière ici. Bref, c'est pas très grave, on va pas rester. Donc là, on est au troisième. On est encore dans l'aile nord, donc encore occupé. D'un côté, on a fait les archives des sœurs, donc un espace qu'on ne peut pas occuper. De l'autre côté, c'est déjà utilisé par des artisans en textile, notamment. Puis là, on fait un petit passage, un bref passage par l'atelier de couture, représentant encore un peu le côté autonome des sœurs sur le site, puisqu'elles étaient cloîtrées. Évidemment, elles avaient une boulangerie, un salon de coiffure qui est juste en face, un atelier de couture, etc. Puis c'est ce genre d'espace qui est quand même très illustratif de la démarche transitoire, du sur-mesure de la démarche transitoire, en fait. C'est-à-dire que normalement, dans des projets comme celui-ci, on essaie de conserver le patrimoine, surtout extérieur. Le façadisme, c'est une chose, on conserve beaucoup l'extérieur, mais l'intérieur des bâtiments, pour mettre aux normes, on enlève tout, on arrache tout, puis on met au propre.
Et là, on a une contrainte à l'occupation qui est importante. C'est une grande banque qui est en plein milieu de la pièce, une espèce de grande table avec des tiroirs partout. C'est sûr que c'est un poil contraignant pour l'occupation future.
Ben, un poil contraignant ou en fait un avantage, puisqu'en fait, on a un espace qui est déjà adapté pour des artisans textiles ou des artisans papier ou différents types. Donc en fait, là, nous, c'est pour ça qu'on cherche des porteurs de projets. On fait des appels candidatures très larges en présentant les options. Et plutôt que d'adapter les espaces à l'occupant, on adapte l'occupant à l'espace.
D'accord.
Donc, pour conserver ce patrimoine-là et le mettre en valeur. Donc, c'est vraiment ça l'avantage de l'occupation transitoire. On peut continuer dans notre petit circuit. On a quelques bureaux de la ville de Montréal ici. Et puis, on a cette fameuse cloche, en fait, corde, qui en fait est l'ancienne cloche, qui permettait d'attirer les paroissiens à la messe.
D'accord, donc là, la corde de la cloche qui traverse du faux plafond, sans doute...
Ouais, du rez-de-chaussée jusqu'en fait, il traverse les quatre
étages. Sans doute très récent, et d'accord, oui, il y a un caractère
c'est ça,
un peu.
C'est ça, c'est ça.
La ville de Montréal, donc, est aussi fait partie des occupations
bien
des
sûr,
occupants
oui,
transitoires.
C'est ça. En fait, c'est le service de la diversité et de l'inclusion sociale, donc qui a pris à charge, qui est le principal responsable donc de la requalification du site. Ce service-là a mandaté les autres services pour les accompagner selon leurs expertises différentes. Mais donc c'est le SDIS, donc le service de la diversité et de l'inclusion sociale, c'est le nom à dire, qui occupe le bâtiment et avec qui on est en contact quotidien. Donc. Et là, on passe par l'oncle couloir L central Est-Ouest, où qui mène sur plein de petites chambres, où on pourrait voir donc des artistes, on pourrait voir des organismes communautaires, de l'accueil pour des personnes itinérantes du coin. Il y a plein de choses qu'on peut envisager avec cet espace-là.
Ce que tu nous dis, c'est déjà des pistes, des sensations que vous avez, même si évidemment le processus est loin d'être achevé. Hein, il est plutôt dans sa phase d'accélération. Mm-hmm. C'est déjà un peu l'esquisse de la vision que vous avez à terme de l'occupation des lieux.
Bah c'est ça. On ne pouvait pas non plus partir juste avec une page blanche parce qu'il nous fallait quand même une structure de base. Donc on a établi une vision en termes d'activité, lignes directrices, etc. La seule chose qui va vraiment jamais changer, c'est les lignes directrices.
Ouais.
Et les valeurs que les sœurs ont mis dans l'acte de vente avec la ville, ça ne changera jamais. Mais par contre, le reste, c'est sûr que tout est modulable parce que le but, c'est vraiment d'être itératif. Et c'est rare, on voit ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins. Est-ce que finalement, ça fait vraiment du sens de mettre des ateliers d'artistes là? Peut-être pas, mais on va le voir du coup, on va le tester.
Mais vous partez déjà, non pas d'un a priori, mais d'une première version quelque part, avec l'idée derrière de tester et par cette itérative de voir où on avance. Mais déjà quelques idées qui sont assez précises. Alors ça vous permet peut-être aussi d'aller chercher des occupants. Mm-hmm. Ce processus-là d'appel... D'appel à projet, d'appel ouais. à manifestation d'intérêt, je ne sais plus comment tu le...
En fait, on le nomme différemment
D'accord,
chaque fois,
bon.
Mais donc on comprend...
Comment vous faites, en fait? C'est une page web et de la communication? C'est des réseaux d'acteurs que vous connaissez déjà sans doute du fait des autres,
évidemment,
des autres occupations?
Ouais, en fait, on a déjà une liste en fait, sur notre site général Entremise. On a toujours un petit bouton « J'ai besoin d'un espace ». Où les gens peuvent toujours laisser leur candidature, leur proposition, où ils expliquent ce qu'ils font, pourquoi ils veulent un espace, combien de, c'est quel budget ils ont, etc. Ce genre de choses. On va redescendre par cet escalier ici. Donc évidemment, ça c'est une liste de contacts qu'on a déjà, puis on peut contacter ces gens-là à chaque fois qu'on a des nouveaux espaces qui se libèrent. Mais aussi, oui, on fait beaucoup de communication avec infolettres, réseaux sociaux, sur notre site web, sur le site web de chaque projet. À chaque fois qu'on a un nouvel espace. La manière dont on communique, on essaie quand même de mettre toujours, par exemple, pour ce projet-ci, les lignes directrices, le type d'activité, mais on sait que les gens vont au-delà de ça, surtout quand dans un espace où il y a beaucoup de... dans un espace au sens très général de Montréal, où il y a beaucoup de spéculation immobilière, les gens s'arrêtent pas exactement à ce qu'on liste. Fait qu'on a confiance dans le fait qu'on va nous proposer des choses auxquelles on s'attendait pas et qui vont nous permettre d'ouvrir de nouveaux horizons qui en fait sont peut-être bien mieux que ce qu'on avait prévu de base. Donc on sait que c'est toujours comme ça que ça fonctionne, donc on fait confiance dans le
la créativité
des personnes. En fait, c'est vraiment basé sur ça. L'occupation transitoire, c'est basé sur le principe que ce ne sont pas des ingénieurs et des architectes dans un bureau qui vont pouvoir avoir toutes les idées possibles pour un espace. Il faut qu'on fasse confiance aux citoyens pour nous proposer des projets. Et nous, on se permet juste de faciliter le tout, au final. C'est vraiment ça.
D'accord. Mais il y a bien cette étape de temps court, hein, qui donne aussi une dynamique.
Bien sûr. Hein,
qui permet de tester les choses.
On est de retour, mais on aurait pu, je sais plus quelle heure il est, s'il nous reste du temps ou pas. Il est 11h33, en fait, on pourrait quand même continuer à aller voir un petit peu les espaces verts.
Ouais, volontiers.
Évidemment, on a fait un trajet vraiment réduit, parce que c'est labyrinthesque. Le sous-sol contient évidemment la crêpe, la boulangerie, la serre, on se perd très très facilement.
Oui, mais on reviendra, ça c'est pas un problème.
Bien sûr, ouais, bien sûr. Mais là, je pense que ça mérite quand même, pour le temps qui nous reste, d'aller faire un petit...
Est-ce qu'on peut en profiter, parce qu'il y avait déjà beaucoup de dans cette salle un peu centrale là de vos bureaux, il y avait au mur des plans des différents niveaux, des petites fiches avec les occupants potentiels et puis des fils en laine qui permettaient de les relier entre eux et puis de les mettre dans un espace ou un autre. Est-ce que tu peux nous raconter qui va venir
Bien sûr, mais en fait, je peux déjà vous raconter qui est déjà là, sur place.
Ouais, ouais.
Donc, on a... Attendez, je bloque les portes pour pas qu'on se reste enfermé. Ça aussi, c'est les petits enjeux de l'occupation transitoire qu'on trouve des systèmes D. Donc, on a beaucoup d'organismes créatifs parce qu'on pensait avoir plus d'espaces disponibles à la base. Donc, on pensait faire un appel à candidature par thématique, donc pour les 4 thématiques. Donc, on a beaucoup misé sur le créatif en premier. Finalement, on a moins d'espace, donc ils prennent une plus grosse proportion d'espace par rapport aux autres.
Ouais.
Donc on a des organismes en théâtre, donc je vous ai déjà nommé, mais toujours du théâtre impliqué. Donc Petit Sridonia, par exemple, c'est vraiment un théâtre pour les minorités ethniques, fait par des minorités ethniques et sur des thématiques sociales. Et souvent, c'est des représentations immersives avec les spectateurs qui deviennent finalement des acteurs. Bref, toute une thématique sociale, donc ça rentrerait dans plusieurs de nos lignes directrices. On a également un organisme qui travaille en création et en recherche sur la thématique du vieillissement. Comment bien vivre dans nos sociétés actuelles, comment bien mourir aussi dans nos sociétés actuelles. Un organisme aux trois sentiers qui est donc un organisme en soins palliatifs, c'est comme ça qui se nomme. Des artisanes, une association de relieurs aussi, art qui se perd puis qui témoigne de l'histoire du lieu aussi, puisqu'elles sont installées dans l'ancien atelier de reliure de la cité.
D'accord, ouais.
On a la remise, la bibliothèque d'outils. J'essaie de ne pas en oublier, on a quand même beaucoup d'espace malgré tout.
C'est plus pour qu'on comprenne un peu la diversité au-delà au-delà des uns et des autres, la diversité des types d'occupants. Et là, c'est des diversités de statuts aussi. Donc on a des...
On a quand même beaucoup d'OBNL, beaucoup de travailleurs autonomes. On n'a pas beaucoup d'entreprises privées, bien que là, il y en a quelques-unes qui vont s'installer. Donc une académie d'herboristerie, ce genre de choses. Ça rentre toujours dans les lignes directrices, donc ça ne sera jamais un garage qui va s'installer à la cité des hospitalières, on s'entend. Mais actuellement, c'est beaucoup les OBNL, pareil. Mais on a aussi en fait des organismes qui sont plus larges que ça, en fait, qui sont eux-mêmes des regroupements. Donc par exemple, l'espace de coworking. Actuellement, c'est deux regroupements qui sont là-dedans. Donc, on a le programme Montréal en commun, qui regroupe des organismes en mobilité, agriculture durable et gestion de données éthiques et responsables.
D'accord.
Donc, en fait, c'est plusieurs organismes qui font partie de ce programme-là, qui ont intégré les lieux et qui le partagent. Mais on a aussi Value Collective, qui est un organisme. Alors, je veux rendre hommage à ce fonds parce que c'est très intéressant. Mais qui eux-mêmes proposent en fait de définanciariser la création de valeur. Donc, c'est très large, mais ils proposent des résidences, pas juste artistiques, mais en tout sens, pour des personnes qui cherchent à proposer quelque chose pour la communauté. Des cours de danse pour des mamans avec des enfants en bas âge, des affaires comme ça, sans coût, donc gratuitement. Fait qu'eux-mêmes font des sélections à l'intérieur de leur regroupement.
D'acteurs qui ont vocation à être accueillis dans ces locaux-là.
Exact.
D'accord,
exact.
D'accord. Donc on a des formes des sous-échelles d'occupation qui peuvent aussi s'organiser. D'accord.
Oui, il y a un réseau dans le réseau, tout à fait. Puis à l'intérieur de ça, évidemment, il y a plein de maillages. Il y a l'organisme de soins palliatifs qui s'est mis en partenariat avec l'Académie d'herboristerie, évidemment, pour des soins alternatifs aussi en fin de vie. On a Value Collective, donc qui s'est mis en lien avec des artistes, parce qu'il y a des artistes en résidence aussi, et en médiation culturelle un peu plus au rez-de-chaussée. Enfin, il y a plein de liens qui se créent juste par l'occupation de l'espace.
Donc là, on est dans un espace qui est bordé par les différentes ailes de cet ancien hôpital, puisque c'est bien ça. On est au pied de Mont-Royal aussi, donc on a le végétal qui est hyper présent et pour autant, on est quand même dans un espace qui, autour, et on l'entend, est plus qu'habité. C'est à la fois des chantiers, de la circulation, des tours à proximité qui sont en train de se construire, etc. etc. C'est un espèce de havre de paix, là, qui a donc vocation aussi à être, quoi qu'il en soit, maintenu.
Tout à fait. Et là, je dirais qu'on est dans 20% du jardin. Là. Il y a 80% qui reste derrière et sur lequel on a un point de vue assez magistral sur le centre-ville de Montréal, gratte-ciel, etc. Donc, il y a un contraste même visuel qui est important. Et en effet, en fait, actuellement, il y a encore des fouilles archéologiques dans les jardins. Donc, c'est pourquoi ils ne sont pas encore ouverts au grand public. Puis peut-être qu'ils ne le seront jamais ouverts au sens d'un parc. Parce qu'en fait, évidemment, comme on vient de le dire, il y a le Mont-Royal à côté, il y a plein de parcs à côté. Fait qu'on veut quand même pas juste que ce soit un espace juste où tout le monde vient pique-niquer forcément le samedi. On veut que ce soit vraiment un espace d'introspection, de quiétude, un espace préservé. Donc, on est en train de voir comment on peut mettre ça en place. On avait des balades à la harpe, par exemple, cet été. On a eu des ateliers de méditation pour des intervenants sociaux. Au printemps. Il y a ce genre de trucs qu'on teste C'est un espace qui est quand même accessible pour les occupants du site, selon certaines zones prédéterminées.
Voilà. Mais donc, c'est aussi un espace de réflexion, une ouverture, mais c'est pas forcément
C'est ça,
transformer le... ça. Il y a bien une ouverture sur la ville, parce qu'à la fin, le lieu change aussi de face. Hein. Il est aujourd'hui bordé de quatre murs. Et puis, c'était des sœurs cloîtrées. Hein. Donc, il y avait vraiment une logique d'enfermement. Là, on est sur une logique d'accueil qui est en train de s'amorcer. Une première phase de prototype, quelque part, d'une occupation qui, de toute façon, est temporaire. Vous animez l'occupation là d'une partie du bâtiment avec l'espoir, l'envie, et je doute pas que vous arriviez à occuper l'ensemble. On verra aussi ce qu'il advient de tout ça. C'est quoi pour vous le grand rendez-vous là qui arrive dans les prochains mois? À quel moment est-ce que vous allez tout mettre sur la table en disant bon, c'est la fin de votre contrat?
Est-ce qu'il y a un gros... oui, je pense que la fin de notre contrat va évidemment être un moment le moment de faire le point. Bien qu'on fait le point, en fait, on va faire le point à la fin de 2022. On fait le point par trimestre. On fait souvent le point malgré tout parce que c'est ça le but. C'est pas juste de créer puis de laisser aller non plus complètement. Il faut qu'on voit comment on réarrange les choses. La fin de notre contrat, évidemment, ça va être nos conversations avec le service de sécurité incendie pour l'éventuelle ouverture des autres espaces puisque on peut pas non plus. On peut faire autant qu'on peut, mais on peut pas monter un modèle durable si on n'a pas accès à l'ensemble du bâtiment, puisque c'est sur ça qu'on se base.
Il y a aussi un besoin de
viabilité financière.
Il faut trouver la masse critique avec l'ouverture.
Nos prochains défis, c'est vraiment ça, l'ouverture des autres ailes, puis la tarification solidaire, la finalisation de cette tarification-là.
Ouais. D'accord. Donc beaucoup de choses qui vont se passer là dans les mois qui viennent.
Exact.
On sera attentif à prendre des nouvelles du lieu.
Hein, bien sûr.
Et puis on va mettre de toute manière dans les commentaires du podcast l'ensemble des liens. Il y a pas mal de choses qui ont d'ores et déjà été publiées, mais je pense que ça vaut le coup aussi, en tout cas pour les auditeurs du podcast, de voir les images. Hein, on est aussi sur un lieu d'exception au cœur de Montréal que j'invite chacun à visiter. Marie Renoux, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir, c'était vraiment un plaisir de vous accueillir ici.
Et donc à très bientôt.
À bientôt.